Un tango? Une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Marie Richeux et Sophia Aouil. On est beaucoup dans ma rue, et même au collège, à être élevé par des droites et qu'on fait taire avec des bonbons. La principale religion à la maison s'appelle le silence. Pour éviter les problèmes et espérer être un peu heureux, la tactique à employer est de fermer sa gueule, baisser la tête, raser les murs. Alors c'est ce qu'on fait, maman et moi. La daronne, c'est dans sa peau, elle a pratiqué ça toute sa vie. Ma mère est un fantôme de lait et de rose, silencieuse et discrète. Le genre de femme qui mourra dans les limbes des mots qu'elle n'a jamais osé dire. Le regard droit et le poing fermé par la rage avortée. Pour mon cas, c'est plus compliqué. Vous commencez à me connaître. J'arrive jamais longtemps à rester sage ou à fermer ma bouche. Il y a bien ce moment où j'allais presque mieux, mais le quartier m'a rattrapée. Il vous rattrape toujours. La rue, le quartier dont parle votre narrateur, Sophia Aouil, dans cet extrait de votre roman Rhapsodie des oubliés, c'est la rue Léon, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Abadi connaît moult bonnes et mauvaises aventures, mais il fait une rencontre déterminante, plusieurs, mais une en tout cas. Une dame qui l'appelle Ouvre dedans, une psychanalyste, et elle lui suggère d'écrire dans un petit carnet. C'est peut-être ce qui sauve. Bonsoir à vous, Sophia Aouil.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Vous jouez avec ce mot rhapsodie à coudre plusieurs chants. Il y a évidemment votre chant à vous, votre écriture et la voix de ce narrateur. Et puis il y a toutes les phrases que vous mettez en exergue qui fonctionnent comme des choses qui sont cousues avec. Et parmi ces phrases-là, il y a un extrait de la voix off de La Jetée de Chris Marker.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale.
Départ à destination de Rome. Vol à Italia 333. Embarquement.
À Orly le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices.
Alors voilà, vous avez peut-être reconnu la voix de Jean Negroni dans cette voix off du film La Jetée de Chris Marker. On aurait pu choisir beaucoup d'autres choses parce que finalement, toutes les citations, elles nous renseignent par le côté sur ce que vous écrivez, Sophia Aouil. Pourtant, celle-ci, elle me semble assez importante. Est-ce qu'elle est aussi à vos yeux?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand vous passez l'extrait, j'ai les images en tête. Chris Marker appelait ça le ciné-roman. Et en fait, c'est un film que j'ai découvert le même jour où j'ai découvert Les 400 coups. Et mon livre, qui est une rhapsodie, qui veut dire couture de chant en grec, c'est la couture et la somme de toutes les lectures et de tous les films et de toutes les chansons qui m'ont aidé de passer d'une enfance et des monstres de l'enfance à la femme que je suis aujourd'hui et à écrire ce livre. Et c'est vrai que ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance et les souvenirs ne se font reconnaître que plus tard par leurs cicatrices. Ces deux citations qui sont découpées en deux, comme une rhapsodie, dans les deux parties du roman. Et c'est un roman qui parle à la fois de la mémoire et aussi de toutes les sommes, de la somme de toutes les grandes découvertes esthétiques que j'ai pu faire, des découvertes qu'on peut appeler des humanités. Avant, on disait qu'on faisait ces humanités chez les jésuites. Et moi, je les ai fait le jour où j'ai ouvert la trappe de la culture, en fait.
Et dans cette trappe-là, vous avez trouvé aussi bien le cinéma, la littérature que la musique. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement présent dans Rhapsody, jusqu'à son titre-là. L'idée d'un chant, l'idée que votre texte serait un chant, c'est arrivé immédiatement. C'était important pour vous?
La musique m'a accompagnée dans toute l'écriture du roman. C'est un roman qui est à la fois le plus important pour moi, au-delà de raconter l'odyssée d'un quartier qui est celui de la Goutte d'Or, comme vous disiez tout à l'heure, c'était de trouver une poétique dans la voix d'un gamin de 13 ans, ce qui est pas évident, parce que tenir un narrateur de 13 ans sur 200 pages, ça peut facilement être nul, en fait, ou être, on va dire, ça peut être bancal, ça peut faire faux jeune. Et moi, mon idée, c'était de raconter la langue de la rue, la langue du bitume, mais aussi de trouver une poétique et un lien entre mes influences. Mes influences vont à la fois de l'Assommoir de Zola, dont le livre est aussi une référence, enfin le contraire, et à la littérature afro-américaine d'Iceberg Slim dans Pimp ou Mama Black Widow, à cette littérature qui était aussi une littérature de la marge, qui représentait les ghettos des années 60 et 70, et surtout les ghettos afro-américains. Et j'avais envie de faire la jonction entre toutes mes influences et de raconter la marge, mais aussi de trouver une poétique dans les bruits de la rue, une poétique dans le côté sombre. Et dans toutes ces influences-là, il y a quelque chose qui en est sorti comme un geyser, et j'ai écrit ce livre comme ça.
Ça veut dire rapidement, comme un geyser ?
Non, ça veut dire que ça a duré 5 ans, 7 mois, 13 jours et 17 heures.
Ah oui, c'est précis. Hein. C'est un geyser lent alors.
C'est ça, c'est un geyser lent, mais c'est un geyser en fait qui a été auto-censuré par un parcours de vie qui s'est écrit en même temps que ce livre. J'ai ouvert les archives de mon enfance en même temps que ce livre. Les archives de mon enfance, c'est des archives de la DAS en fait. Moi, j'ai passé 20 ans à l'aide sociale à l'enfance comme enfant placé. Et il y avait un héritage à la fois on va dire un héritage de l'ordre de la souffrance et un héritage du silence, comme la citation dont vous parliez tout à l'heure. On m'a légué à la fois le silence, les béances d'une histoire que je ne connaissais pas. Et en même temps, le seul héritage positif, c'était une phrase à laquelle je me suis accrochée comme une barque. Et un jour, j'ai eu envie de vérifier cette phrase et j'ai ouvert mon dossier de placement à l'ASE, ce qu'on appelle l'ASE aujourd'hui, donc l'aide sociale à l'enfance. Et quand j'ai ouvert cette phrase, c'est vrai que le livre s'est écrit un peu plus facilement. Parce qu'avant, je ne me donnais pas le droit d'écrire, par exemple, des personnages de femmes. J'arrivais pas à écrire dans la langue d'une femme.
Pourtant, comme elles sont importantes, les femmes, dans ce roman-là.
Et aujourd'hui, j'ai des retours de lecteurs qui me disent que c'est un roman pas féministe, hein, mais que c'est un roman sur les femmes. Et que c'est un garçon qui est élevé dans une sorte de gynécée. Alors, il y a la gynécée qui est la rue, qui est un peu une mère indigne, et il y a la gynécée aussi avec toutes les femmes qui tissent un peu son entourage et qui vont l'élever au sens du roman d'apprentissage, quoi. Elles vont faire de ce gamin vont le sortir un peu, on va dire, de sa bêtise pour en faire un homme, quoi.
Notamment des femmes qui sont, mais on y reviendra, hein, plus âgées que lui, voire beaucoup plus âgées que lui, ou alors des femmes qu'il n'aperçoit que par une fenêtre et qui vont aussi l'emmener sur un chemin d'écriture, mais on reviendra après. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous dire cette phrase qui a ouvert pour vous le chemin de l'écriture, parce qu'elle n'est pas sans rapport, Sophia Aouine, avec la rencontre déterminante dont je parlais pour Abad, qui est cette fameuse femme ouvre dedans? Je trouve que c'est une invention extraordinaire pour dire ce que c'est que le travail possible et la rencontre possible avec une psychanalyste.
La phrase de Françoise Dolto. Mon père m'a dit cette phrase un jour où je l'ai croisé place de la République. Mon père était chauffeur de taxi pendant 40 ans et il fait partie un peu de ces invisibles qu'ont eu un pied en France, un pied dans l'histoire postcoloniale et un pied toujours un peu dans une terre qui est une terre de chimère, qui est la terre de l'immigration, qui est l'Algérie, et plus précisément la région de Kabylie en Algérie. Et c'est un père qui a été absent, c'est un père qui aurait voulu que je sois un petit garçon. Et cette phrase, en fait, il m'a fait le meilleur cadeau de ma vie en me plaçant à la DAS parce qu'il voulait pas s'occuper de moi, parce que je n'étais pas un garçon, parce que j'avais le sexe maudit. Et cette phrase, aujourd'hui, résonne comme un cadeau et a changé complètement ma vie. J'ai toujours du mal à la dire parce qu'en fait, je voudrais pas passer pour Madame Enfant Placé. J'aimerais qu'on parle que de mon livre. Mais en fait,
vous avez vu que moi, je suis pas du tout allée sur ce terrain-là.
Exactement, hein. Ouais, bien sûr. Mais je me rends compte à quel point aujourd'hui mon livre et les deux sont une sorte de prophétie telle que Dolto l'avait dit. Donc cette fameuse phrase, je vais finir par la cracher, c'est « Quand tu étais petite, tu as rencontré Françoise Dolto, elle a dit que tu écrirais des livres. » Alors des fois je dis que tu serais écrivain, mais en fait je me souviens maintenant que c'est des livres. Donc la prophétie n'est pas terminée.
La prophétie n'est pas terminée, mais en revanche, les signifiants et les mots qu'on prononce, y compris à l'égard d'un nourrisson ou d'un tout petit enfant, ont un impact sur son corps, ont un impact sur sa tête. Et quand vous dites « j'ai été vérifier ça dans un dossier », qu'est-ce que vous avez vérifié, Sophia Owen ?
Eh ben, j'ai le 10 mai... Les dates sont très importantes pour moi. J'ai l'air un peu d'une obsessionnelle comme ça, ou je le suis un peu. Mais c'est vrai que avant, j'avais l'impression d'être complètement coupée en deux et de pas avoir de mémoire, de pas avoir d'enfance. Et je me suis construite... comme beaucoup d'enfants résilients, dans une sorte de survie à travers la vie. Donc c'est mettre des pansements sur des pansements. Mais la blessure, elle est toujours autant toujours autant purulente, quoi. C'est pas une image très jolie à la radio un soir à 21h, surtout sur France Culture, mais on va dire qu'on met des placebos sur des placebos et un jour ça éclate, et c'est ce qui est arrivé. Donc la culture a joué un rôle de maman. Je dis aujourd'hui que papa c'est Truffaut, maman c'est la radio, et Dolto, celle qui est au-dessus de la Trinité, hein, de la Sainte Trinité. Et quand j'ai ouvert ce dossier, c'était pour vérifier cette phrase. Je me souviens que je suis arrivée au département des archives de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, endroit où j'ai passé le début de mon placement jusqu'à mes 10 ans. Et la première phrase que j'ai demandé aux dames qui m'ont reçue, c'est « Est-ce que j'ai rencontré Françoise Dolto ?» Et la dame me regarde et elle me dit « Ah oui, je crois que j'ai vu ça quelque part. » Et je la vois très très lente en train de tourner les pages. Et j'étais dans une rage telle que j'avais envie de les arracher. Mais je me suis dit « Ne sois pas sauvage, tiens-toi. » Et elle m'a dit, tiens, déjà j'ai retrouvé une photo de vous. Alors moi qui n'avais aucune photo, aucune trace d'enfance, j'avais juste en fait les échos du roman familial qu'on a pu me donner. Forcément, c'était pas des échos positifs. Et j'avais des trous à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que j'ai eu envie à la fois de récupérer mon enfance parce qu'on me l'avait volée, et aussi de m'ancrer quelque part parce que j'avais l'impression que j'étais arrivée au bout d'une route et qu'il fallait que j'aille chercher la petite fille que j'avais. Et donc c'était pour vérifier cette phrase et pour essayer aussi de me donner ce droit à être écrivain.
On entre dans le texte par la goutte d'or.
Rue Carré, rue Palanceau, rue de la Goutte d'Or.
Rue Richaume, rue des Gardes, rue de Panama, rue de la Goutte d'Or.
Square Léon, rue de Tombouctou.
Marché des gens, rue Richaume. Square Léon.
Depuis 56. Depuis 56 que je suis dans le quartier. C'est un autre quartier, c'est un petit village. On était mélangés de tout. Arabes, français, espagnols, italiens, arméniens, juifs, auvergnats. Et tout mélangé, les corses aussi. On s'accorde entre nous, on était en respect pour tout le monde, en respect pour les autres, c'est des amis, quoi. Comme ici, la rue Mira, la rue Laurent, là, c'est des juifs. Ici, la rue Charbonnière, la rue Char, c'est des arabes, enfin, des algériens, des kabyles, des oranais, tout s'est mélangé, quoi.
Pendant la guerre d'Algérie, qu'est-ce qui se passe ici?
Ah, c'était dur, c'était difficile le quartier, hein. C'était très très difficile. Hein. La pression par la police, partout, on était malheureux, nous, surtout le couvre-feu pour nous et tout, hein. C'était invivable. Et avant, nous, on travaillait, on est heureux, on a respect les uns et les autres, on était bien, mais maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, c'est le chômage, la misère, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Surtout les jeunes maintenant. Il ne trouve rien du tout. À 20 ans, il n'a rien du tout. 20 ans, 22 ans, il n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises. Soit il vend la drogue, il fait agresser les gens, il vole, il faut qu'il trouve quelque chose. C'est des jeunes, on a passé par là, nous aussi. Hein. Le quartier, il est très... maintenant, ça vient un quartier moderne et tout. Avant, c'était l'étudier, là, tous les bâtiments, ils étaient des vieux bâtiments, sales, tout. Maintenant, c'est propre, maintenant, c'est bien. C'est un changement, il y a des appartements, il y a des gens qui sont bien là-dedans, à l'intérieur, mais à part, c'est un peu cher pour eux. Il y en a des gens qui sont rimés, c'est rénové partout, quoi. Il y a des projets, mais on n'a rien vu de projet, hein. Il faut construire des logements, ça manquait des logements beaucoup. Des logements comme ça, c'est des ghettos, ça, c'est pas des logements, ça. C'est des ghettos. Il y a des Sénégalais à part, il y a des Maliens à part, il y a des Arabes à part, il y a des... Non, il faut mélanger un peu tout. Il faut pas des ghettos. C'est ça qui ça va passer. C'est pas. Je crois que c'est mal fait, quoi. C'est mal partagé, c'est mal fait. Hein.
c'est la voix des enfants qui vous a fait lever la tête vers les haut-parleurs, Sophia Aouin, et puis ensuite la voix de cet homme, il s'appelle Abdelkader Bousselma. C'est un habitant du quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement à Paris, qui a été interrogé pour France Culture en 2007 pour l'émission Tout un Monde. Arrivé en 1958, il fait une sorte de carotte temporelle, comme en archéologie de ce quartier qu'il regarde. C'est aussi un quartier que vous regardez. Dans ce livre-là, c'est un quartier que vous écrivez. Le livre, il commence par la rue, il finit presque par la rue. Est-ce que c'était l'une des ambitions de ce texte que d'en faire une photographie littéraire ?
On parlait de Chris Marker tout à l'heure, du ciné-roman, et moi je suis quelqu'un, maintenant que je m'autopsie, je fais une radioscopie de la manière dont j'écris, et qu'on me demande de plus en plus, quand je fais des entretiens, aujourd'hui on est dans un monde où on demande aux écrivains de faire du storytelling de la manière dont ils écrivent.
Ça vous embête un peu ?
Non, ça m'embête pas, mais c'est vrai qu'il faut se regarder, alors que c'est toujours difficile quand c'est chaud comme ça, parce que j'ai terminé le texte il y a pas si longtemps. Je suis quelqu'un qui travaille lentement, mais j'espère qu'il travaille sûrement. C'est difficile parfois de trouver des mots ou des réponses à des questions. Et c'était pas une ambition forcément, mais c'était une envie de... J'ai l'impression en fait que je fonctionne par photo sonore. Je suis quelqu'un qui vient de la radio, j'ai fait des documentaires radiophoniques, à l'école aussi un peu de France Culture, et c'est vrai que je fonctionne, quand j'écris, comme le montage d'un documentaire radio, et ma première ambition dans la vie, quand j'ai mis un pied à la radio, c'était de faire des fictions, et je crois que j'ai écrit ce roman comme une espèce de fiction radio. Il y a quelque chose comme ça, de la photo sonore un petit peu, et du polaroid sonore, comme le faisait Chris Marker avec ses films. Et chaque mot, chaque image est composé à la fois, mais comme une photo, et en même temps, ou un arrêt sur image, la 25e image, mais c'est jamais la bonne image, c'est toujours une image un peu à côté, une image un peu de la marche. Je sais pas si c'est très clair.
C'est très clair.
Ouais, et en même temps, il y a le son qui est à côté, enfin, c'est comme si on faisait un montage. Il y avait deux choses qui se regardaient l'une avec l'autre. Et ce monsieur est très touchant parce que il fait la jonction entre deux mémoires. Et c'est une partie du livre je consacre un chapitre qui s'appelle le djihad MDR, parce que j'ai commencé l'écriture de ce livre en 2013, au moment où on commençait à parler de Mohamed Merah, des jeunes radicalisés, etc. Et j'ai voulu aussi faire une sorte de radioscopie de la jeunesse d'aujourd'hui, et j'ai raconté comment les générations de pères et de fils avaient perdu la guerre de l'entente, c'est-à-dire à travers le prisme de la religion musulmane. Dans mon livre, j'ai voulu expliquer comment les pères prient, les jeunes prient aujourd'hui, et comment en fait toutes les couches d'immigration se sont un peu loupées les unes et les autres à travers la grande histoire de France, quoi.
Et alors, à quel endroit se situe la prière dans ce loupage généralisé pour vous ? Dans le texte, hein, j'entends bien.
Chez les pères, elle se situe dans une habitude culturelle, dans un rapport à Dieu qui est un rapport à la maison, qui est un rapport un peu apaisé, qui est un rapport aussi caché, puisque c'est souvent, on dit que les vieux rasaient les murs, et les jeunes d'aujourd'hui, c'est la schizophrénie identitaire, c'est de la revendication, et parfois c'est aussi une manière d'essayer de trouver sa place dans le monde. Et par-dessus, il y a la précarité, il y a la misère sociale, il y a le crack, il y a l'héroïne dans les années 80, et je raconte que toutes ces générations d'hommes se sont un peu loupées, quoi. L'exil a laminé, les jeunes sont nés ici, tout le monde est un peu perdu.
Peut-être qu'il faut dire deux, trois mots sur ce quartier-là, deux, trois mots en plus que ces enfants qui énumèrent les rues et en plus que ce monsieur Abdelkader Bousselma qui en fait comme ça une longue histoire, parce que c'est un quartier de la Goutte d'Or que vous écrivez au présent majoritairement quand même, Sophia Aouin, et dire ce que c'est aujourd'hui que la Goutte d'Or, pour dire aussi le destin que peuvent s'y tracer les différents personnages que vous inventez.
Alors la Goutte d'Or, c'est 300 nationalités, 82 langues, tout ce que raconte Monsieur Bousselma, les Arméniens, les Juifs, les Auvergnats, bah, c'était les années 40, 50, 60, à l'époque où les immigrés kabyles ouvraient des cafés. Et aujourd'hui, ces immigrés kabyles, dont les pères sont morts ou partis prendre leur retraite en Algérie, les cafés sont fermés parce que en fait, toutes les nouvelles couches d'immigration se fracassent les unes contre les autres. En fait, les parcours comme celui de Monsieur Bousselma, c'est les parcours des pères qui arrivaient avec leurs valises, c'est les parcours des pères après 62 et qui en fait n'arrivaient pas à penser qu'ils resteraient en France toute leur vie. Et mais ils ont fini par y rester parce qu'ils se sentent étrangers dans leur pays d'origine et ils sont pas acceptés en France. Les fils sont nés ici et les fils veulent être français, mais ils se reconnaissent pas dans la France d'aujourd'hui parce que la maman France ne les reconnaît pas non plus. Donc tout ça est une question d'incompréhension totale. Mais il y a quelque part aussi quelque chose de positif parce que si on radiographie de près la goutte d'or, on se rend compte à quel point l'histoire des travailleurs maghrébins, l'histoire du FLN à la goutte d'or, l'histoire aussi plus large du 18e arrondissement avec la mémoire juive, lui parle de l'Arménie, des Auvergnats, en fait celle du petit peuple, c'est une histoire qui compose le Paris populaire. Et je pense que dans le Paris d'Émile Zola dans l'Assommoir au 19e siècle, et le Paris que je décris dans mon livre, il n'y a pas tant de différences que ça. Malheureusement, c'est des différences qui sont très négatives, parce que c'est celle du déterminisme, mais il y a beaucoup de points communs.
Comment est-ce que vous avez trouvé la voix de ce jeune Abad, 13 ans, qui est à la fois un corps, une voix qu'on suit dans tout ce texte, Sophia Aouine? Elle arrive d'où?
Elle arrive, je sais pas, il est arrivé dans ma vie comme arrivent les grands rendez-vous. Il est apparu le 8 juillet 2013. Je suis très fétichiste avec les dates, hein, vous allez me trouver un peu étrange. Mais j'essaye de me raccrocher à plein de choses et j'essaye de réécrire mon histoire à travers la présence de ce gamin. Il est arrivé aussi à 17 ans quand j'ai découvert Les 400 coups de François Truffaut, film qui a changé ma vie. On en parlera peut-être tout à l'heure.
On y vient, là, dans l'instant.
Et il est arrivé et je dis souvent qu'à base, je le ferai jamais mourir. Je crois que Truffaut et Douanel, c'était le yin et le yang, c'était l'ombre et la lumière, c'était le petit garçon et le jeune homme et le grand homme. Douanel et Jean-Pierre Léo, c'était une face de la même pièce et Abad et moi, c'est un peu la même ambition. Je dirais pas que je suis du même acabit, mais ce serait de la même ambition.
Ça aurait pas pu être une jeune fille.
Non. Non, 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 je suis un peu un garçon manqué. Je dis pas que je suis un garçon manqué, mais je suis un peu une fille manquée. Et aujourd'hui, une femme manquée, et j'ai du mal à grandir. En plus, depuis que j'ai découvert la petite fille que j'étais à travers les photos, à travers ce dossier dans lequel j'ai découvert aussi qu'on m'avait donné une enfance, qu'on avait pris soin de moi, il y a une envie irrémédiable de pas grandir. Donc c'est pas le complexe de Peter Pan, mais pour moi la fiction est un cadeau. Et au départ, mon éditrice que j'ai rencontrée grâce à une émission que j'ai faite sur France Inter où je racontais justement mon parcours d'enfant placé et mon accès aux archives, donc dans la marche de l'histoire de Jean Lebrun, je me suis rendu compte en ouvrant ces archives de la richesse de mon parcours. Et ce gosse, en fait, il me ressemble un peu, quoi. J'ai plus envie de grandir aujourd'hui. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. J'ai rencontré donc mon éditrice à travers cette émission de radio que j'ai faite. On m'a entendue à la radio, un jour on m'a contactée et on m'a proposé d'écrire mon histoire, ce qu'on appelle une autofiction littéraire. Et au début,
vous aviez un roman dans la
j'avais
valise.
Déjà un roman dans ma besace en fait que j'arrivais pas à terminer à cause de tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et j'ai essayé de l'écrire cette autofiction, j'ai essayé de l'écrire cette femme que j'ai été, j'ai essayé de raconter Dolto, j'ai essayé de raconter mes années radiophoniques. J'ai essayé de raconter la manière dont j'ai passé le périph, dont les voyages, dont le rapport avec l'Afrique, donc dont la musique m'ont fait grandir, etc. Mais j'ai pas réussi. J'arrive pas à écrire sous la plume d'une femme de 40 ans. Et pour moi, la fiction est un cadeau. Et ce gosse, il a parfaitement résumé la manière dont je vois le monde et la manière dont j'ai aussi envie de me moquer un petit peu de tout ce qu'on vit et la manière aussi entre chaos et beauté dont je vois mon quartier. Parce que j'y habite dans le 18e et je pense pas qu'il faille habiter dans un endroit pour l'écrire. Mais je l'aime profondément et je l'ai dans la peau. Et d'ailleurs, mon livre est dédicacé à ce quartier et aux inconnus de mon quartier.
Et au destin.
Et au destin surtout, ouais.
400 coups.
C'est très bien qu'à l'école, on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, Je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle nous disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
Ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Ah,
on a dit aussi que les 400 coups, c'était un peu votre histoire personnelle.
C'est un film qui est partiellement autobiographique, et en tout cas, ce qui n'est pas autobiographique est biographique. Autrement dit, rien n'est... Tout est puisé dans la réalité, rien n'est inventé.
Est-ce que vous pensez que vous êtes au-dessus ou au-dessous de la réalité? Que les choses sont plus graves que vous l'avez dit de votre film? Les 400 coups est un film violent, est un film dur, qui dénonce beaucoup de choses.
Je crois qu'il aurait été beaucoup plus violent si je l'avais tourné plus jeune et qu'il serait sans doute plus serein si j'avais attendu davantage, mais je crois qu'il n'est jamais outrancier.
Alors je désannonce pas cette musique, Sophia Aouin, ni la voix de Truffaut, et juste avant un extrait de son film Les 400 coups. Ce qui m'intéresse dans l'extrait du film qu'on choisit, c'est d'une part parce que vous le choisissez aussi à la fin de votre livre Rhapsodie des oubliés, mais aussi c'est la manière dont il est question de mensonge. En fait, il est question de mensonge là-dedans, dans les 400 coups, il est question de mensonge quand vous citez Bachung et La nuit je mens. Il est question en fait des choses qu'on doit inventer. Et quand le petit Douanel dit ma mère elle est morte, vous ça vous fait rigoler. C'est un mensonge qui vous fait rigoler.
Bah, c'est des mensonges pour être aimé. C'est-à-dire que c'est des mensonges qui créent à l'amour. Le personnage de Douanel dans Les 400 coups de Truffaut, c'est un môme sur le côté, et c'est un môme dont la mère est un peu une mère indigne, une mère un peu égoïste. Et c'est un môme qui crée à l'amour, et c'est un môme qui a envie qu'on le voit, et c'est un môme qui a... En fait, il a beau essayer de parler, personne ne le croit, parce qu'il est... Il est ce qu'il est, il est un gosse pas voulu, quoi, un gosse pas désiré, et Abad, c'est un petit peu la même chose. Il y a quelque chose de commun entre les deux, parce que les deux, en fait, sont un peu des pieds nickelés, ils sont en pleine déflagration des hormones, ils sont à la fin de l'enfance et dans le début de l'adolescence. Ils sont à 7 minutes où tout bascule, et il y a quelque chose d'universel là-dedans, mais ce sont surtout des enfants de la marge.
Quand vous dites enfants de la marge, ils sont aussi à la marge d'un monde qui est...
Celui des adultes.
Ouais. Ouais, vraiment, c'est-à-dire, j'allais dire, bien sûr, ils sont à la marge, économiquement à la marge, parce que ce quartier, bah, c'est, comme on l'entendait dans l'archive, dans le reportage, c'est quand même un petit monde dans un monde, donc ils sont à plein de marge, mais ils sont aussi à la marge, parce qu'ils sont les deux pieds dans leur enfance quand même, et Abad, il est encore les deux pieds dans son enfance.
Oui, il est deux pieds dans son enfance, il a encore du lait au coin de la bouche, c'est un sale gosse, mais c'est un sale gosse universel, comme était celui de Truffaut dans Les 400 coups. Il y a quelque chose aussi de Momo dans La vie en soi, ouais. il y a aussi un peu du personnage dans L'enfance nue de Piala, il y a aussi un peu de Sophie, de la comtesse de Ségur, il y a aussi un peu de Mon bel orangé de Vasconcelos. Il y a tous les gosses que j'ai croisés et qui m'ont montré qu'on pouvait faire de ces enfants pas voulus et non désirés des grands personnages de fiction. C'est ça, je trouve, la réussite de mon livre, et en tout cas aujourd'hui tel que je le vois, c'est qu'il touche des gens de tous les milieux, de beaucoup d'âges différents. Et j'ai l'impression qu'en fait, mon désir d'origine, c'est de conclure par cette phrase, c'est la phrase de l'épilogue. Ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été. C'est ça l'ADN du bouquin. C'est un bouquin sur l'enfance. C'est un bouquin qui parle aussi de la société actuelle, mais c'est un bouquin sur l'enfance.
Ah oui, vraiment.
Et j'ai eu l'impression d'avoir réussi ce que je voulais raconter dans les réceptions des lecteurs. Il y a quelque chose, à chaque fois, on me dit, ça me fait penser à la petite fille que j'ai été, petite fille qui faisait des bêtises. Ouais, je pense que il y a peut-être des points communs entre les deux, j'espère.
Mais ces enfants, pensez-vous ? Moi, je pense qu'on est absolument liés par les enfants que nous avons été, assurément. Ouais, je l'espère de tout cœur d'ailleurs. Comme ça, ça fait un bon lien bien solide, non ?
Non, mais est-ce que vous pensez qu'Abad et Douanel ont des points communs ?
Oui, je pense qu'ils ont des points communs. Je pense qu'ils ont aussi des points de divergence. Je pense qu'ils ont aussi des points communs avec Momo de Romain Gary, notamment son rapport aux prostituées et aux femmes de la rue et aux femmes plus âgées. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut aborder d'ailleurs. Il se trouve qu'à la Goutte d'Or, comme dans d'autres endroits à Paris, comme dans d'autres endroits du monde, il y a des femmes qui vendent leurs services sexuels dans la rue, notamment la nuit. Qu'est-ce qui se tisse d'important entre Abad et ces femmes-là ?
Quand Abad décrit le personnage dont vous parlez, qui est le personnage de Gervaise, il dit les putes, c'est des mamans aussi. Et en fait, le personnage de Gervaise, c'est une évocation de la Gervaise de Zola dans l'Assommoir, parce qu'il s'avère que la rue Léon, c'est la rue dans laquelle...
qui est une des rues de la Goutte d'Or.
C'est ça, qui est une des rues, qui est aussi le personnage principal de mon livre. La rue Léon, c'est la rue dans laquelle Gervaise de l'Assommoir de Zola vit et meurt. Devient la Vendière la rue où le déterminisme et l'assommoir et l'alcool tuent tout le monde. Et j'ai voulu, en fait, et j'ai emprunté copieusement ces personnages à Zola, c'est-à-dire Gervaise et sa fille Nana, pour raconter qu'au fond, depuis le ventre de Paris, tout ça n'a pas vraiment changé. Le déterminisme n'a pas vraiment évolué, il a juste changé de couleur. Et le personnage de la prostituée, c'était aussi pour raconter les Gervaises d'aujourd'hui. La Gervaise d'aujourd'hui, c'est une migrante, elle est originaire du Cameroun, elle passe par les filières de prostitution nigérian. Et puis c'est aussi les âmes qui composent le quartier qui se situe entre Château-Rouge et la Goutte d'Or. On appelle ça des marcheuses. Elles ont toujours l'air d'adolescentes, elles ont des baskets. À Belleville, c'est les mamans chinoises. Et nous, dans mon quartier, c'est des filles qui ont l'air d'écolières, en fait. Sauf que la plupart ont entre 15 et 18 ans et qu'elles elles enchaînent les pipes à 10 euros toute la journée. Elles sont envoyées par leur famille dans des espèces de filières à la fois entre secte et traite humaine. Et en fait, elles arrivent en France, elles ont des dettes de 60 000 euros sur le dos, et puis elles ne sortent jamais de la spirale de la prostitution. Donc le personnage de Gervaise que j'ai inventé, c'était pour raconter comment se tisse le lien entre les différentes époques, et aussi pour raconter la volonté à travers l'exil d'être dans la dignité. Il y a des points communs dans tous les personnages, c'est tous des personnages de la marge, mais c'est aussi tous des personnages qui créent la dignité. Comme le petit Abad crée l'amour, en fait.
Peut-être que ce qui a changé quand même Sophie Aouine depuis le ventre de Paris, c'est ce qui se dit au Square Léon. C'est assez important la place que prend la drogue, le trafic de drogue dans ces rues de la Goutte d'Or, aussi parce que ça fait intervenir la BAC, les policiers, et Dieu sait qu'en plus l'actualité, les certaines enquêtes qui sont menées là-bas font de ça une actualité vive. Quelle est la place que vous donnez à ça, à ce petit deal, grand deal, qui rythme aussi la vie de ces rues-là ?
Il est à l'image d'une certaine jeunesse, de certains quartiers de banlieue, de certaines régions françaises. On ne dit pas uniquement dans les banlieues françaises,
dit
aussi dans les banlieues pavillonnaires, le 16e arrondissement dans lequel on est actuellement.
Et dans les campagnes aussi.
Dans les campagnes aussi, ouais, bien sûr, ou dans les zones rurales, tout ce que vous voulez. Mais le deal, ça fait partie du complément de la CAF, quoi. Il y a quelque chose comme ça où le billet qui sent le shit aura toujours une place parce qu'il remplit le frigo. Donc, et c'est une réalité qui est là et qui existe depuis longtemps. Barbès, c'est le marché aux voleurs. On appelait ça comme ça. C'est le marché du trabendo. Le trabendo, c'est un mot en algérien qui prend ses sources d'ailleurs dans l'espagnol, qui veut dire trafic. Vous arrivez au métro Barbès, c'est Marlboro. C'est le lieu des cigarettes qui sentent le foin. Je vous déconseille d'en acheter d'ailleurs. Et c'est un lieu de trafic en tout genre, et ça change changera jamais, je crois. Qu'on aura beau essayer de gentrifier le quartier, de mettre une brasserie pour les bourgeois, aujourd'hui la brasserie Barbès, ça changera vraiment jamais, parce que ça fait partie de l'apport culturel de toutes ces couches d'immigration. C'est le commerce informel, en fait. Et je pense que la drogue fait partie de ça. Et par exemple, on parlait d'Alain Bachung tout à l'heure. Alain Bachung était une des figures du quartier. Il y est mort, sa femme y habite toujours. Et il y a un square aujourd'hui qui s'appelle le square Alain Bachung, qui est juste à côté de la villa poissonnière où il habitait. Et ce square-là, par exemple, il a ouvert il y a quelques années et il a fermé aussi il y a quelques années parce que c'était des jeunes migrants marocains, comme vous voyez sur le port de Tanger, qui s'étaient appropriés le square et qui en fait eux sniffaient de la colle. Donc aujourd'hui,
des
très très jeunes, ce sont des gamins qui terrorisaient dans les papiers de BFM, etc. le quartier, et ils ont été obligés de fermer le square. Donc je sais pas ce que Bachung en aurait pensé, mais j'ai l'impression que c'est un quartier qui accueille que des enfants à la vie fracassée, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans, par exemple, que le crack revient dans les rues de Paris, dans tout le nord-est parisien. Et Châteaurouge et Barbès en sont un peu devenus aussi les mamelles. Je dis souvent sur la ligne 12, qui a 13 stations entre Porte de la Chapelle et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire 13 stations entre la colline du crack et l'endroit où se deal, si on peut parler comme ça, les grandes lois de la société française.
Et souvent, c'est un trajet qui n'est pas fait exactement dans le même sens. On va parler un petit peu de langue avec vous, Sophia Aouine, avec deux personnes, Raymond Queneau et Riyad Satouf.
Je crois que l'abîme entre la langue parlée et la langue écrite est énorme. Il n'y a même pas moyen de sauter par-dessus. Il faut admettre cette différence. Et je crois que le devoir de l'écrivain à l'heure actuelle est de donner toute autorité à la langue parlée et de rejeter ce qu'on appelle actuellement le français dans le passé d'une façon absolument radicale. Nous devons créer une nouvelle langue, pas la créer, du moins donner sa littérature à la langue parlée actuelle qui est, donc on peut appeler le néo-français par exemple.
Le fait que j'écoute bien vient d'un réflexe de survie. C'est que j'étais obligé de savoir si les mecs qui me parlaient avaient envie de me casser la tronche ou d'être mes amis. Et donc, c'est vrai quand on me disait, excuse-moi, gros bâtard, viens là, là, t'as du genre là, fais voir là. Voilà, moi, c'est comme ça qu'on me parlait souvent. Donc, je me disais, mais si on dit, excuse-moi, là, ça a l'air plus sympa, c'est plutôt, excuse-moi, tu sais par où on va? Et j'étais obligé. Ou alors, monsieur, s'il vous plaît, vous venez là. Ça s'est construit plutôt comme ça, en fait, mon envie d'observer l'extérieur. C'est des gens que j'ai rencontrés, voilà, et qui restent gravés dans ma tête parce qu'ils m'ont fait une impression. Voilà. C'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire dans mes bandes dessinées. J'adore essayer de retranscrire le langage parlé, l'évolution des langues, etc. C'est de la langue française, notamment, quand on entend la façon dont il parlait dans les années 60, quand on entend Truffaut qui parle de son travail. Le cinéma, c'est avant tout une actrice et une caméra. Enfin, il y a une... Ça va très très vite, en fait, voilà. C'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai rencontré Alain Rey, et je lui demandais comment on parlait, par exemple, à l'époque de la Révolution française, comment la voix était, quel accent avaient les gens, en fait. Et il m'a expliqué que le vrai français de cette époque-là, qui était considéré comme vrai français, tout le monde roulait les R. C'était « Bonjour, madame, comment allez-vous » C'est un peu quand on se moque des très très grands bourgeois aujourd'hui, et que le bas-peuple et les gens un peu parlaient comme nous. Et qu'ils faisaient des R comme ça, comme le président de la République aujourd'hui. Donc voilà, ça se trouve dans le futur, le président de la République, il parlera comme parle ce qu'on considère aujourd'hui comme être le mauvais français. Wesh, les Russes, ils nous ont saoulés là. Alors ça se fait pas, franchement, ça se fait pas d'amener les chars à la frontière. Alors moi, j'ai été vénère en tant que président. Wallah, je vais les défoncer. Mais en fait, tout le monde écoutera, ouais, il a bien parlé, mais c'est un peu trop précieux. on sait pas.
On comprend pas ce qu'il dit, il parle trop bien.
J'adore la façon de voir comment la langue évolue et comment, à chaque époque, on se dit, oh, c'est la fin de tout, plus personne ne parle le vrai français. c'est marrant, quoi.
À 70 ans d'écart, Raymond Queneau, 1948, dans la tribune de Paris, RTF, et Riyad Satouf, chez Zoé Varier sur France Inter, dans une journée particulière, qui parle de ce pont franchissable ou pas, traduisible ou pas, entre la langue parlée et la langue écrite. Sophia Aouine, c'est l'un des intérêts de ce texte-là, c'est le chant. C'est ce fameux chant dont on parlait au départ avec le titre Rhapsodie des oubliés. C'est un chant qui considère que le pas il est franchissable et que la langue qu'on parle, la langue qui est dans notre corps, peut atterrir, transformer certes, travailler certes, mais sur les pages. Comment ça s'est passé pour vous justement cette oreille absolue dont parle Riyad Sattouf?
Le point commun entre Queneau et Sattouf, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas de mauvais français. Et l'intérêt de mon texte, c'était de montrer que dans la langue parlée dans les rues du 18e ou ailleurs, dans la langue de cette génération Z, comme on dit, il y avait aussi de la poésie. C'est une langue aujourd'hui qui emprunte, et c'est une langue en plus qui se parle dans le 16e arrondissement, dans le 93, un peu partout. C'est une langue qui emprunte au lingala, donc congolais, qui emprunte aux mots d'arabe, qui emprunte à l'argot gitan, qui emprunte à l'argot du temps de Marcel Carnet, qui emprunte à l'argot qu'on parlait dans les marchés. Enfin, il y a vraiment un métissage de langage, et c'est le français d'aujourd'hui. C'est un français qui évolue. Aujourd'hui, il y a des mots comme, par exemple, le mot seum qu'on retrouve dans le dictionnaire, des mots validés par Alain Rey et Bernard Pivot. Non, il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution, en fait, qui malheureusement, pour certains réfractaires, est obligé de se faire. Parce que les écrans, le numérique, le Twitter font que la langue évolue à la vitesse de la lumière. Moi, ce qui me rend plus triste, c'est peut-être le côté franglais, hein, en fait. Et j'ai voulu écrire mon livre à la jonction entre une langue très classique, de mes influences, donc le grand roman français classique du 19e, et une langue très très actuelle, très d'aujourd'hui, très 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 bitume, quoi, très béton, et en même temps une langue qui est pas celle de la facilité de faire jeune. C'est-à-dire que moi, dans mon texte, il y a pas de verlan, par exemple. J'ai pas voulu faire jeune parce que ça vieillit très mal, et j'ai voulu plutôt rendre hommage à une langue qu'on parle, par exemple, dans le spoken word, dans le spoken word, ou dans le hip hop, pas dans le rap, hein, dans le hip hop, une langue qui grandit dans les ghettos et qui en même temps est évocatrice d'une certaine marge, une langue qu'on n'entend pas, mais une langue en fait qui défonce tout.
C'est quand même en fait toujours ça, cette question-là, entre 1948, Raymond Queneau, et 2019, Riyad Sattouf. Si on continue à se poser la question de la traduction d'une langue parlée vers une langue écrite, d'une langue populaire vers une langue qui serait celle de la littérature, bon, en 70 ans, ce sont des choses qui bougent, et pourtant la question se renouvelle et se repose. C'est pas tant la langue que les êtres. Est-ce que c'est pas les êtres qu'on a du mal à faire entrer dans la littérature?
Si, si, bien sûr, et moi j'aimerais avec ce roman percer le plafond de verre. Souvent je parle de troisième voie, c'est-à-dire que on peut à la fois aimer Patrick Modiano et aimer le rap. Il y a pas de problème. Mais c'est vrai que souvent on dit, on comprend pas qu'il y a de la sensibilité dans les deux et qu'il y a de la poésie dans les deux. Et moi, j'ai voulu raconter qu'il y a de la poésie un peu partout, à partir du moment où on arrête l'hystérie et qu'on se met à écouter, et peut-être à écouter les sons, à écouter les âmes, et peut-être aussi à se dire que on se ressemble un peu tous. Mais ça, encore faut-il, ça, c'est une question d'imaginaire collectif. Et je suis pas prête à parier qu'on soit prêt en France. Et pourtant, le rap est la musique la plus écoutée en France aujourd'hui. Et la production musicale française, la musique urbaine, la musique, ce qu'on appelle les musiques actuelles, c'est la production hip-hop qui est la plus, qui marche le plus, qui se vend le plus, voilà. Et cette langue des rues, cette langue des jeunes, elle est parlée par tout le monde. Aujourd'hui, un jeune de 15 ans, il va dire wesh, il va dire seum, il va dire wallah, comme Riyad Sattouf dans l'archive. C'est irrémédiablement comme ça. Tout se mélange, et cette génération-là, en fait, elle nous fait un peu la nique, je trouve. Après, quand on fait de la littérature et quand on a vocation à écrire et à inventer une poétique, il faut pas aller dans la facilité. Moi, c'est pas un roman avec un langage de banlieue, c'est pas un roman qui veut faire jeune, c'est pas un roman qui tente de raconter la langue du bas des tours, c'est un roman qui veut faire de la littérature. Et je trouve qu'il faut être ambitieux, tant dans l'éducation des jeunes, que quand on veut raconter la marge ou le peuple, il faut être exigeant dans la poésie, si c'est possible.
Thank you. le souffle dans le cou, la douleur, la tâche, l'ennui, la faim. La première fois, c'est vraiment rien. Autant ne jamais passer la frontière. Je le regarde, il dort. Pourquoi lui ? On dirait un enfant mal fini, un enfant sans mère. J'ai fouillé dans son studio, un espace rangé comme une vie de merde. Propre, rien qui dépasse, tout à sa place. Un appartement comme les grands magasins. J'ai mis le premier disque que j'ai trouvé. Madame Butterfly par Maria Callas. La femme sur la pochette a les yeux noirs qui transpercent de beauté. Les yeux noirs des mères sur les photos anciennes. Des yeux noirs de femmes qui n'existeront plus jamais. Ma génération a les fesses tournées vers la côte ouest des États-Unis, la tête en direction du pays de Cham. Elle se rêve en star d'Instagram pour ressembler à Kylie Jenner. Elle ne connaît pas l'odeur du jasmin à la nuit tombée, ni le silence religieux des soirées passées à se raconter des histoires. La dame de Butterfly se met à chanter. La nuit se tait, je pense à ma mère. Les voix montent, je pleure. Ça devrait pas exister des choses comme ça. Ça devrait pas exister, la beauté. La voix de Maria Callas et celle de Jeanne Aléos qui lit un extrait de votre texte Sophia Hawin, Rhapsodie des oubliés. C'est un texte dans le texte, peut-être qu'il faut dire deux mots, on pourra évidemment pas passer tout le roman en revue, mais de ce personnage qui est Nour et qui est peut-être celle qui écrit, qui est l'alter ego d'Abad, qui est peut-être la voix féminine impossible dont vous parliez en tout début d'émission, Sophia Hawin. Est-ce que vous nous dites deux mots de ce personnage-là?
Nour, c'est une gamine voilée qui vit en face. En fait, au début, elle a pas de prénom. Elle s'appelle la fille d'en face, et c'est la fille dont Abad va tomber amoureux pour la première fois. C'est un gamin qui évolue dans sa trajectoire et qui évolue aussi sur son apprentissage du sentiment amoureux.
Donc et c'est de la sexualité.
Et de la sexualité surtout, qui confond un petit peu les deux. Et Nour, c'est la jeune fille sur laquelle il cristallise pour la première fois, comme l'Aurélien d'Aragon ou d'autres. Hein. Et Nour, c'est une jeune fille qui raconte cette jeunesse enfermée et qui fait la jonction peut-être entre ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, la pierre et la poésie. Il y a quelque chose dans ce personnage moi qui me bouleverse, et c'est vrai que j'ai du mal à parler quand j'entends mon texte avec Maria Callas. Je me dis à quel point cette musique correspond à ce personnage, et il y a quelque chose il y a quelque chose qui me donne envie de me taire. J'ai du mal à vous répondre, en fait.
Moi, ce que je peux dire de Nour, c'est que elle fait un pas vers Abad, hein, après ce face-à-face de fenêtre en fenêtre. Elle lui laisse un petit mot qui l'invite à découvrir des textes sur Internet via des forums qu'on appelle les forums de fanfiction, où des jeunes et des moins jeunes écrivent des textes, de personnes qui ont un lien à l'écriture comme ça, personnel. Et donc, il va la découvrir par les textes qu'elle écrit. Il y a une très jolie reproduction d'un forum internet avec des commentaires, et en bas de page, il y a Garçon d'en face, et je ne sais plus exactement ce qu'il dit, il écrit, je crois, je t'ai lu, je t'ai vu. Est-ce que vous pensez, Sophia Hawin, qu'on peut voir les gens dans ce qu'ils écrivent? Est-ce que vous pensez que c'est une fenêtre sur eux ou sur elles?
Il écrit « Je t'ai lu, où es-tu, Nour ?» parce qu'on sait, pas si elle meurt ou pas, si elle s'envole par la fenêtre ou pas. Est-ce qu'on peut, la question c'est, est-ce qu'on peut voir les gens à travers l'écriture? Oui, on peut les deviner, on peut les sentir. La force de ce personnage, c'est peut-être de se donner à voir à travers des mots et de laisser un testament écrit. En fait, c'est une gamine qui rêve d'être Marguerite Duras parce qu'un jour, elle fait un stage de troisième. Elle a un frère qui la séquestre à la maison. C'est une jeune fille qui a pas le droit de sortir. C'est une jeune fille qui est séquestrée par sa culture, ses parents et par le patriarcat, on va dire, et par une certaine religion mal pratiquée. Et cette gamine, un jour, elle fait un stage de troisième dans une librairie avec un type qui rêve d'une petite qui ressemble à Sophia Loren, et cette fille-là, derrière son voile, elle a les mêmes yeux que Sophia Loren. Et puis un jour, il essaye de la tripoter dans la réserve, et elle lui met un pain dans la gueule, et pour
Quand elle part, elle arrache des livres. Et dans ces livres-là, il y a Le Marquis de Sade, donc Justine ou Les Malheurs de la Vertu, Les Petits Chevaux de Tarquinia et un barrage contre le Pacifique. Elle met les livres sous sa djellaba, elle court jusqu'à chez elle et elle lâche les livres. Et elle dit cette phrase, j'ai lâché les livres au sol comme s'ils étaient nés en moi. Et en fait, elle tombe sur Barrage contre le Pacifique et elle le lit. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'écriture et Duras la transperce et elle décide de devenir écrivain parce qu'elle se dit qu'à travers ça, on pourra l'écouter, on pourra l'entendre. Et donc, c'est la seule manière qu'elle a de s'exprimer, c'est d'aller sur un forum de fanfiction. Aujourd'hui, on dit que les enfants n'écrivent pas, mais on passe notre temps à écrire. On écrit peut-être mal, on écrit peut-être un mauvais français, mais on écrit beaucoup. Et sur ces sites, qui sont des sites où les gamines font des chroniques, en fait, elles s'inventent un personnage et c'est Nour Donadieu de Barbès. Donc, c'est à la fois le nom de Duras et en même temps une sorte de particule qu'elle se donne pour exprimer sa place dans son quartier, dans la société, dans sa famille, et voilà.
Le fait que vous lui fassiez prendre ce surnom-là, pardon, Sophia Aouin, Nour Donadieu de Barbès, c'est un sourire d'une part... pour moi, c'est vraiment un sourire adressé à une forme de culture, c'est-à-dire ça veut dire que vous savez, et Nour sait que Donadieu, c'est le nom de Duras, mais c'est aussi un sourire d'humour, et le livre n'en est pas dénué. Il y a tout le temps un sourire, y compris quand il s'agit de décrire des gens qui ont 80 ans, qui sont obligés de prier dehors parce qu'il n'y a plus de place dans la mosquée qu'on a ouvert pour eux, ou qu'on n'a pas ouvert pour eux, justement, dans le 18e arrondissement. Il y a toujours quelque chose qui plane de tendresse. Peut-être que c'est pas un sourire de rire, mais un sourire de tendresse.
On dit que l'humour est la politesse du désespoir, et moi je suis une grande fan de Desproges, je suis une grande fan de l'humour anglais. J'aime le cynisme et en même temps j'aime la tendresse et l'enfance. Donc c'est un livre qui est écrit avec toutes ces empreintes là, et je trouve que c'est intéressant de se moquer en fait de l'hystérie, de se moquer. Le premier chapitre se termine par une bagarre entre les fémènes et les vieux qui prient par terre un jour de prière du vendredi.
Parce qu'il faut quand même se rappeler que les fémènes avaient leur QG, je ne sais pas si c'est encore le cas, hein, mais avaient leur QG.
Il a été incendié.
Au lavoir moderne, c'est ça, non ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai commencé ce livre en 2013, et un jour, je me promenais dans le quartier, et ce jour-là, il y avait le Figaro qui était là, et il y avait les fémènes qui avaient élu domicile au-dessus du Lavoir moderne parisien, qui est un théâtre aujourd'hui. Lavoir moderne parisien, dans lequel la Gervaise de Zola lavait son linge, dans lequel le film de René Clair a été tourné dans les années 40. Donc, toute cette partie... En fait, c'est que des couches et des couches de mémoire. Et c'était un vendredi. À l'époque, il y avait une grosse médiatisation autour des prières de rue, reprises par l'extrême droite. Et ce jour-là, il y avait donc les fémènes qui faisaient une conférence de presse, les seins nus avec des fleurs dessinées sur les nids bar, comme le gamin raconte, et il y avait les habitants du quartier avec les téléphones portables, il y avait le Figaro, il y avait BFM TV, et il y avait les vieux qui essayaient de prier tant bien que mal, et j'ai vu ce cocktail-là, j'ai dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et puis une semaine après, il y a une association qui s'appelle Saucisson, la soupe au cochon, qui voulait créer des apéros saucisson pinard dans le quartier, et je me suis dit, on a un tel niveau d'hystérie qu'à un moment il faut en rire, c'est pas possible. Oui, il faut faire des blagues parce que au premier, on a un camp d'entraînement fémène. C'était un camp d'entraînement en fait où elle voulait former les futures féministes d'aujourd'hui. Il y a les vieux qui prient par terre. Et en même temps, il y a cette extrême droite qui veut essayer de placer son empreinte et son jeu politique au milieu de tout ça. Donc ça donne un cocktail explosif qui a l'image en fait du débat hystérique identitaire en France, tel qu'on veut bien nous le faire croire et nous le faire voir, sans angélisme bien sûr. Et je voulais que ce soit un môme qui raconte ça, parce que il a lui ce regard de... En plus, c'est un enfant de l'exil, il est syro-libanais, il arrive en France à l'âge de 10 ans, et je voulais qu'il regarde ça avec un côté enfant. Par exemple, dans le vocabulaire de mon roman, les islamistes, c'est pas des barbus, c'est des barbapapa. Les filles voilées, c'est pas des filles voilées, c'est des Batman. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance, quoi. Et j'ai voulu aussi, dans ce premier chapitre et dans l'évocation de tous ces conflits identitaires, raconter raconter ça avec la politesse du désespoir, quoi.
On laisse aux lectrices et aux lecteurs la joie de découvrir d'autres relations, notamment avec des vieilles dames, et puis le portrait que vous faites de d'autres lieux de la marge où on prend soin de ces corps abîmés et vieillissants. Sophia Hawine, en un mot, il aura d'autres vies fictionnelles, votre petit Abad?
Vous me demandez s'il aura une suite?
Ouais, par exemple.
Oui, il aura une suite. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me demandent s'il aura une suite. Je pense que je peux vous dire oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Rhapsodie des oubliés, c'est votre livre. Il est publié aux éditions de La Martinière. Et je rajoute, puisque vous avez évoqué Jean Lebrun, que vous ferez une lecture en sa compagnie à Bloomeray, au Village Radiophonique, le samedi 2 novembre.
Jagged jigsaw pieces tossed about the room. I saw my grandma sleeping with her old straw broom. She didn't know what she was doing. She could hardly understand.
Vous ne pouvez pas mieux terminer votre semaine qu'avec Pieces of Man de Jill Scott Heron. À la prise de son, c'était Jean-Frédéric, à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chasseur et Lucie Riandest. Aussi une page sur franceculture.fr et un podcast sur toutes les bonnes applis. Très belle soirée.
I saw my daddy meet the mailman, and I heard the mailman say, now don't you take this letter too hard now, Jimmy. They've laid off 9 others today. But he didn't know he was saying, he could hardly understand. That he was only talking to pieces of a man. I saw the thunder and heard the lightning, and felt the burden of his shame, and for some unknown reason, he never turned my way. Pieces of that letter were tossed about the room, and now I hear the sound of sirens come knifing through the gloom. But they don't know what they are doing. They could hardly understand that they're only arresting, yeah, pieces of a man. I saw him go to pieces. I saw him go to pieces. He was always such a good man. He was always such a strong, strong man. Yeah, I saw him go to pieces.